Dans Mondes Imaginaires, on ne vous parle pas d'aventure, on vous parle de quête. C'est vachement plus héroïque.
Bienvenue, chers auditeurs. Mondes Imaginaires pousse les portes du Necronomicon pour suivre les chemins de la contrée des rêves. Sur les traces de Lovecraft, des auteurs se sont penchés sur le berceau de Cthulhu. Et dans cette émission, on jouera, on parlera roman et on lira des nouvelles en espérant échapper au chaos rampant. La clé d'argent, les 70 marches du sommeil profond, Ulthéar et ses chats, le terrifiant monde souterrain, le plateau de Leng et bien sûr la mythique Kadath dessinent les contours d'une géographie fantastique d'une richesse infinie, celle d'un monde onirique révélé par H.P. Lovecraft et visité depuis par des centaines de milliers de lecteurs, de joueurs de jeux de rôle et de rêveurs, les contrées du rêve. C'est l'intro de Frédéric Weil qui ouvre la clé d'argent des contrées du rêve, un ouvrage sorti par Mnemos pour les 80 ans du décès du créateur du très glauque Necronomicon. Alors en fait, ils nous vendent une clé d'argent des contrées du rêve pour en fait nous en faire 10, façonnées par 10 auteurs, tous fans de Lovecraft. Alors je vais pas vous mentir, c'est dur de chroniquer un tel ouvrage parce que c'est des nouvelles, c'est 10 auteurs, 10 styles, 10 histoires différentes, 10 trames narratives différentes, des personnages différents. Surtout qu'en fait, ils sont pas 10, ils sont 11. Parce que le 11e texte est un peu différent. C'est une réédition d'un texte de Randolph Carter, qui est un aventurier rêveur et fou, qu'on a longtemps pris pour le double de Lovecraft dans le monde des rêves, et qui apparemment serait un personnage réel. Alors on n'est pas vraiment d'accord avec Jess là-dessus, mais apparemment ce serait le cas.
Il faut croire qu'en un an, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites, vu que je parlerai plus tard de Kadath aussi, mais sur un recueil de nouvelles qui date de mai 2016. Et la clé d'argent dont vous parle Anne est de 2017, mars.
Oui, la découverte de cet ouvrage autographe daterait de 2017. Ouais.
Donc, il faut croire qu'il y a encore des découvertes qui se font par rapport à ce personnage énigmatique de Randolph Carter. Donc, je me réjouis de lire ce livre et puis de découvrir par moi-même si je suis vraiment d'accord avec Anne ou pas.
Et donc on ne sait pas trop justement qui est ce Randolph Carter, on ne sait pas non plus trop quoi en penser. Là on se retrouve en tout cas avec les bribes d'un journal onirique écrit en jeu, décousu, déconcertant, très dans le style de Lovecraft, c'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'on les a souvent confondus, un peu perché, très lettré, un peu comme une forme de correspondance, comme Lovecraft en fait. Et j'avoue qu'en fait je ne sais pas si j'aime vraiment. Soyons honnêtes, cette dernière nouvelle n'a pas... comment dire, susciter un monstre enthousiasme, mais au moins ça reste cohérent avec l'ouvrage, parce que je ne sais pas si j'aime non plus toutes les autres nouvelles. Par exemple, Urion Tagur, qui est la toute première nouvelle, se veut un pastiche de Lovecraft, sous forme d'échanges épistolaires avec des mises en commun de dossiers psychiatriques ou de dossiers militaires qui s'étalent entre 1907 et 1914, et qui parlent tous d'un, ou qui s'adressent à un lieutenant Desplaines. Personnellement, j'ai trouvé que ce texte n'est pas crédible en termes d'écriture et de langue. Ça colle pas avec la période qui veut le représenter. Puis comme c'est tellement proche de Lovecraft, du coup, ça a ce côté pastiche, mais on ne retrouve pas l'écriture de Lovecraft. Et donc, chez moi, ça ne marche pas. Je ne m'imprégnais pas du texte. Et j'avoue que comme j'avais lu juste avant celui qui chuchotait dans les ténèbres de Lovecraft, ça a été un peu un contre-coup pour moi. Mais j'avoue néanmoins que l'intrigue est efficace et que c'est une très très bonne immersion dans l'univers de Lovecraft en version soft. Donc c'est raté niveau pastiche, mais cette première nouvelle est assez réussie comme entrée dans la contrée du rêve. Une autre nouvelle qui m'a laissée complètement froide, c'est une nouvelle qui s'appelle « De Kadath à la Lune » de Raphaël Granier de Cassagnac, qu'on retrouvera aussi dans le recueil dont parlera Jess. Personnellement, j'ai trouvé que la nouvelle est super courte, hein, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop perché pour moi. Que ce soit en termes de trame narrative ou en termes d'écriture, c'était vraiment pas mon kiff. Mais, jusque-là, je n'ai dit que des trucs négatifs, et c'est pas ça qu'il faut retenir. Pour moi, cet ouvrage a une force que j'ai rarement vue ces derniers temps dans un recueil de nouvelles, c'est la diversité. Il n'y a aucune nouvelle qui ressemble à une autre, ni dans le style, ni dans le contenu. Par exemple... dans la nouvelle « Les chats qui rêvent », on retrouve l'histoire d'un vieil homme qui vit avec des centaines de chats qu'il tue à tour de bras. Et cette histoire est rencontrée par un jeune chaton. Et je trouve qu'en fait, le focus est hyper intéressant parce que ça rend la nouvelle hyper flippante à la fin. Donc vraiment très beau focus et très bien écrit. Ou encore une nouvelle qui s'appelle Ilia de Lannis, qui est écrite en vers. Alors ok, c'est pas super facile d'accès quand on le lit, et c'est un peu incohérent en termes de choix de vocabulaire. L'auteur jongle beaucoup trop entre des expressions hyper châtiées puis des abréviations zarbi juste pour avoir le bon nombre de pieds et la bonne rime. Mais l'histoire est super, donc ça c'est sympa. Et puis il faut quand même que je cite les pépites absolues que j'ai vraiment adorées dans ce recueil. Il y a le Tabularium qui est absolument génial, qui raconte l'histoire d'un voyage dans le dédale de la contrée des rêves, des contrées du rêve où on n'arrive pas à accéder à une certaine région. Et puis il y a Capreowum qui est très bien, ou bien le Rêveur de la cathédrale. Vraiment, c'est à chaque fois des univers différents, des personnages différents, et ça c'est vraiment des super. Enfin pour moi c'est des perles. Donc cet ouvrage vaut le détour. Pour moi c'était une découverte incroyable qui permettait vraiment d'aborder Lovecraft d'une manière un peu tranquille ou un peu soft, parce que des fois Lovecraft est un peu dense.
Les ombres sont des rêves. Les ombres sont des rêves. Les ombres sont des rêves. Est une fable, le conteur de celle-ci est fiable. Et sans parler du diable, le bonheur est friable. Car mon règne en fait n'a jamais été minable. Ma contrée était de sable, mes sujets des ombres innombrables. Où l'amitié était le ciment, le jeu de piment. L'amour, l'agrément, la joie, l'aliment. Nous vivions tous dans nos rêves et nos passions. Mais la vie d'adulte a déclenché un processus d'élimination. Quel rêve servi par un peuple de statues. Quel rêve servi par un peuple.
Alors, nous avons parlé de Lovecraft, nous avons parlé de ces auteurs qui ont écrit des nouvelles, mais il y a aussi des jeunes auteurs qui qui essayent de se comparer à du Lovecraft, qui essayent de faire dans le même thème, donc l'horreur fantastique. Et nous avons justement Alex Gester qui, d'après le quatrième de couverture, nous a fait Les Contes du Soleil Noir, qui serait à la hauteur de Stephen King, Clive Barker, David Cronenberg et Alan Moore. Et il s'agit de 5 livres, dont le premier s'appelle Crash, qui raconte l'histoire de Malika, qui est une mère algérienne, qui élève son fils toute seule, qui doit enchaîner les petits boulots en tant que femme de ménage, qui doit suivre sur un tableau Excel toutes ses dépenses parce qu'elle n'arrive jamais à boucler ses fins de mois. Bref, une tragédie banale dans un monde tout à fait contemporain, rien de très folichon, on va dire. Mais comme tout peut toujours aller plus mal, cette personne a un AVC au volant, elle a un accident de voiture, Anne qui part en déprime.
C'est bon, je me repens à la fin de l'émission.
Donc elle se retrouve en stade de légumes dans un lieu d'hôpital. Et la seule manière de la faire réagir, c'est de la faire regarder la télé. Car dès qu'on lui bouche la vue ou qu'on éteint la télé, elle s'agite. Donc les infirmières ont compris qu'il fallait lui laisser voir la télé. Donc ça, c'est le personnage principal, une histoire donc très tragique, qui a une indignation sociale dans tous les sens du terme. Mais c'est Monsieur Geek qui nous la raconte, qui est donc un narrateur un peu étrange, qui est une sorte de fouineur de l'Internet. Et en fait, l'histoire de Malika, il l'a trouvée sur le net. Et il veut en faire une histoire, et il nous la raconte. Alors on se dit, mais quel est le but? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir avec tout ça? En fait, il semblerait que via la télé, Malika arrive à voyager dans les différents événements qui se sont produits depuis en tout cas 2001. En fait, il semblerait que dans toutes les catastrophes, on la retrouve.
C'est super glauque, mais c'est super top. Bah, t'imagines ta vie, tu vis que des catastrophes.
En fait, l'histoire est vraiment décousue. On passe du narrateur, donc de Monsieur Geek, on passe directement dans la tête de Malika, mais on ne sait pas si elle est en train de vivre un vrai souvenir ou si elle est dans un épisode télé. L'écriture est fluide, mais très glaciale. Enfin, moi, je n'ai pas trop apprécié l'écriture personnellement et l'histoire était très décousue au niveau de la structure. C'était vraiment pas très évident à suivre. Cependant, je trouve que l'histoire est encore assez sympa. Mais la première partie qui raconte la vie de Malika, moi, je n'ai pas envie de lire un livre qui me raconte une histoire tragico-banale de la vie des banlieues parisiennes. Donc, à voir ce que donnera le deuxième tome. Mais en tout cas, j'ai pas vraiment retrouvé du Stephen King, j'ai pas vraiment retrouvé du Clive Barker, j'ai pas trop vraiment trouvé les autres. Je suis un petit peu mitigée.
Mais un enfant est mort là-bas quelque part. Mais un enfant est mort et le soleil est noir. J'entends le plat qui sort.
Je suis un livre.
Non, je suis une BD.
Non, 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 je suis un film.
Lovecraft n'a pas inspiré que des auteurs et que des nouveaux romans. Il a aussi inspiré des jeux. Et moi, j'aimerais vous parler d'un jeu vidéo que j'ai particulièrement aimé qui s'appelle Secret World. Alors, Secret World, c'est un MMORPG, donc pour les novices dans le domaine, c'est un jeu de rôle massivement multijoueur. Donc en gros, vous êtes sur un réseau avec plein d'autres joueurs, vous les croisez, vous les côtoyez, vous n'êtes pas du tout obligé de jouer avec eux, c'est vous qui gérez complètement de A à Z. Ce jeu a été développé par Funcom et est sorti en 2012, et il propose une trame hyper intéressante et hyper riche parce que il démarre très simplement en proposant aux joueurs de prendre le contrôle d'un personnage qui va rejoindre une des trois factions qui contrôlerait notre monde dans un futur proche. Ces trois factions sont les Templiers, les Illuminati et les Dragons. Tant vous dire que les Templiers et les Illuminati, je pense que ça parle à pas mal d'entre vous.
Je veux être dragon.
Les Dragons, c'est principalement une faction asiatique, hein, je pense que t'as compris.
Mais ce que j'aime bien par rapport aux dragons, c'est que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est créer du chaos, si je me rappelle bien.
Non, c'est les Illuminati qui créent du chaos. Alors moi, j'aime bien les groupes un peu vicieux, etc. Enfin, moi, j'aime bien jouer un peu les méchants dans les jeux vidéo. Alors forcément, je me suis mise en Illuminati. Et chaque faction a des objectifs différents et selon la faction dans laquelle vous vous trouvez, vos missions vont varier et le but que vous poursuivez aussi. Dans Secret World, on est dans un monde très proche du nôtre, en fait, plutôt futuriste, mais surtout dans lequel des créatures très lovecraftiennes, visqueuses, tentaculaires, etc., interagissent. Il y a aussi d'autres créatures issues de la mythologie égyptienne, de la Transylvanie, etc. C'est hyper varié parce qu'on voyage entre différents mondes. C'est très dur de vous résumer tout ce que vous pourrez voir, tellement c'est un monde prolifique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque faction a justement un objectif différent par rapport à ces créatures qui sont en train d'envahir notre monde. Une de ces factions va chercher à les repousser, une autre plutôt à les contrôler pour éviter qu'elles fassent des dégâts. Et puis, une autre faction, les Illuminati, veut exploiter ces créatures. Alors, ce qui est chouette avec ce jeu, c'est que c'est pas du tout un pay to win. On achète le jeu une fois et on peut y jouer autant qu'on veut. On a accès à tout. Il y a des bonus pour ceux qui achètent des accessoires supplémentaires. Ça les aide à avancer un peu plus vite dans le jeu. Mais une fois que vous avez acheté votre jeu en magasin, vous ne payez plus rien. Du moins, vous n'êtes pas obligé et c'est vraiment assez chouette. C'est un jeu qui est extrêmement développé. L'exploration d'un seul monde équivaut à un jeu en entier. Enfin, on peut y passer vraiment des heures. Il y a des quêtes principales, des quêtes secondaires. Vous n'avez aucune obligation de faire toutes les quêtes secondaires, mais les quêtes principales sont tellement nombreuses que forcément, ça vous prend une pétée de temps. Et puis, il y a de tout. Il y a du combat, il y a de la recherche, il y a des enquêtes, il y a des jeux de logique. C'est un jeu qui fait beaucoup réfléchir. J'avoue que dans le monde égyptien, j'ai galéré pendant longtemps sur certaines étapes. Mais le gros avantage aussi, c'est les personnages. On peut les développer à fond. On a la possibilité d'avoir des capacités magiques, de maîtriser des armes à feu, des lames. Et disons que le premier choix qu'on fait, c'est pas un choix définitif. On peut toujours développer plus et plus et plus les capacités qu'on a. Donc c'est un jeu qui est extrêmement complet. Si je dois trouver un point négatif sur ce jeu, c'est peut-être le fait que des fois, il y a tellement de quêtes qu'on perd le fil rouge principal. On ne sait plus trop où on est, surtout quand on fait une pause assez longue dans le jeu. Mais il est excellent. Il est un peu quand même basé sur l'horreur dans certains mondes. Enfin, moi, il y a pas mal de moments où j'ai un peu sursauté. Mais bon, apparemment, je suis une petite nature. Donc, ne me croyez pas sur parole, jouez. Parce que vraiment, vraiment, ça vaut la peine.
Je confirme clairement ce que j'y ai aussi joué. Et par rapport aux autres MMORPG que j'ai pu explorer, celui-là est quand même une saveur particulière parce qu'effectivement, il n'y a pas juste du combat. C'est pas juste aller taper sur des monstres, se faire de l'XP, gagner des objets, faire évoluer le personnage. Il y a vraiment de la logique, il y a vraiment des enquêtes. Et ça rajoute une dimension au jeu que j'avais pas vu dans les autres MMORPG et rien que pour ça, il mérite d'être au moins testé une fois. Après les jeux vidéo, il y a d'autres types de jeux qui se sont inspirés du mythe de Cthulhu, donc l'œuvre principale de Lovecraft, dont ce qu'on appelle un jeu de rôle. Alors un jeu de rôle, c'est quoi ? C'est une histoire qui est racontée par un maître du jeu à des personnes qui sont autour d'une table et qui représentent un personnage dans l'histoire. Le maître du jeu va donc faire vivre des choses à ces personnages et donc à ces joueurs, et les joueurs vont pouvoir décider s'ils interviennent, s'ils veulent se battre, s'ils veulent fuir, s'ils veulent se cacher. Et si par exemple ils veulent faire une action, en général, il y a quand même le hasard qui intervient via des dés. C'est un système de jeu qui est un peu plus complexe suivant quoi que les jeux de société. Mais c'est bien plus prenant parce qu'on incarne vraiment le personnage et il n'y a pas de plateau, donc tout doit se faire à l'imagination.
Je fais une petite précision. Étant une très très novice en termes de jeu de rôle, il y a une ou deux choses à savoir quand vous commencez. La première chose, c'est qu'un jeu de rôle, ça dure en tout cas 2 heures ou 3 heures, ça dépend. Mais ça, c'est sans compter la création des personnages avant. Donc sachez que si vous prévoyez du jeu de rôle, quand on vous dit « ouais, on va faire 2 heures pour la créa et 2 heures pour le jeu », c'est un minimum syndical. Après, ça peut durer genre le week-end ou la semaine. Puis après, il y a plein d'autres jeux de rôle, genre des jeux de rôle grandeur nature, avec des mecs chelous qui se déguisent et qui vont s'enfermer dans des bunkers. Mais c'est très cool.
Jess n'en peut plus, elle en a fait un récemment, elle s'est enfermée dans un bunker.
Voilà, j'aime bien ce que je dis, des gens chelous quoi.
Plus précisément au Fort L'Écluse, mais bref. Donc pour revenir sur ce qu'a dit Anne, donc effectivement, alors normalement un jeu de rôle peut durer longtemps. Des fois la création des personnages dure longtemps. Il n'empêche que j'ai découvert d'autres jeux de rôle un peu plus accessibles, dont une partie dure 15 minutes, l'explication des règles en dure 5, et l'explication sur les personnages en dure environ 3.
C'est pas mal ça.
Ouais.
Jeu de rôle pour gens pressés.
C'est surtout jeu de rôle pour initier. C'est surtout ça. En ce qui concerne, je suis obligée de rebondir sur les GN. Donc les GN sont des grandeurs nature. Et là, au lieu d'incarner le personnage par l'imagination, on est dans la peau du personnage. Et donc on se costume, on vit vraiment les choses comme le personnage. Et ce qu'on fait, c'est ce que le personnage fait. Donc, il y a effectivement des regroupements de joueurs. Par exemple, il y a 2 week-ends au Fort L'Écluse, il y avait une association qui s'appelle SID qui a fait un GN sur l'univers de Sillage où nous étions 100 de joueurs. Ce qui fait quand même un certain nombre de personnes et ça a duré tout le week-end.
Voilà, à part ça, ces gens-là ont quand même une vie, je vous rassure.
À ce qui paraît. Mais revenons-en au jeu de rôle papier. Donc, l'Appel de Cthulhu a été, c'est le premier jeu de rôle papier sur l'univers de Lovecraft, a été créé en 1981 par Sandy Peterson. Depuis, il y a eu énormément de campagnes sur l'univers de Cthulhu. Une campagne, c'est pas juste un jeu de rôle qui dure 4-6 heures, c'est quelque chose qui va se faire en plusieurs sessions, en plusieurs étapes. Et ça peut durer très, 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 très longtemps. J'ai un ami, par exemple, qui vient de finir Les Masses de Nyarlathotep, il a mis 2 ans. Un jeu par mois à peu près. Donc, ça a commencé en 1981, mais il y en a encore un dont la campagne Ulule vient de terminer, qui sont la réédition des Masses de Nyarlathotep avec en plus le Jour de la Bête. Donc, même en 2017, ça continue, il y a toujours des adeptes, j'ai envie de dire des cultistes presque, et ça n'en finit pas. Donc, il y a ça par rapport à Lovecraft, mais il y a encore eu des dérivés, par exemple Delta Green, qui est aussi un JDR, qui est donc jeu de rôle, qui est inspiré de l'univers cthulhien, mais qui est dans les années 1990. Donc ça veut dire avec d'autres classes de personnages, d'autres armes, un autre contexte, etc. Et il y en a encore un qui m'a fait un petit peu rigoler, j'y ai pas encore joué, qui s'appelle Hartung Cthulhu, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux que vous encourager à faire une partie initiatique de Cthulhu, parce que si le maître du jeu s'y prend bien, avec une petite musique d'ambiance, je vous assure, vous avez peur.
Alors, deux choses sur ce que tu viens de dire, Jess. La première, c'est qu'on pourra retrouver une version légèrement modifiée, car radiophonique, de l'appel de Cthulhu sur La Fabrique. C'est un des futurs projets qui ont été proposés à la radio.
Tellement bien.
Ouais, ça va être super. J'ai entendu le pilote, ça va être de ouf. Bref, j'en dis pas plus, parce que sinon je vais me faire tuer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'univers de Cthulhu, il n'y a pas que des jeux de rôle sans plateau. Il y a aussi des jeux avec plateau. C'est la grande mode des jeux collaboratifs. Ça n'a pas manqué. L'univers cthulhien a donné des enfants dans ce domaine-là. Sachez qu'en fait, le premier s'appelle Horror Arkham. Il est très vieux. Vraiment très vieux. Et en fait, il a donné plein de petits. Il y a des horreurs A, genre Miskatonic, Innsmouth, Kingsport. C'est vraiment plein de petits. Et puis, il y a même des dérivés. Moi, j'ai joué notamment au Signe des Anciens. Il y a aussi les contrées de l'horreur qui déroulent de ça. Moi, je trouve que c'est des jeux assez sympas. Parce qu'en gros, on dégomme des grands anciens, puis c'est rigolo. Sachant que les grands anciens, donc, c'est les méchants du Panthéon de Lovecraft, pour ceux qui ont besoin de sous-titres. Bien entendu, à la fin, un gros gigaboss tiré du Panthéon Lovecraftien. Ce qui est assez cool, c'est que contrairement à d'autres jeux de plateau, justement, on joue ensemble, on crée nos actions ensemble. À noter qu'il ne faut pas jouer avec des gens qui ont trop l'habitude de jouer au jeu, parce que sinon ils disent « Ouais, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça », parce qu'en fait ils ont optimisé le jeu, et puis du coup, effectivement, la partie prend 15 minutes, mais avec un tout petit peu moins de plaisir. Et un truc qui est intéressant dans les jeux coopératifs, collaboratifs, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'en fait, on ne peut pas toujours gagner. Aussi bizarre que ça paraisse, du papier peut gagner contre nous.
Alors, on va faire une petite pause avec Lovecraft, ou pas vraiment, en fait. C'est un peu dur à évaluer.
Il y a des Cthulhu ?
Non.
Alors, c'est une pause.
Edgar Allan Poe. Je pense que ça vous dit à tous quelque chose, au moins de nom.
Pas du tout.
C'est un maître de l'horreur, un des premiers maîtres de l'horreur. Et il a un don fantastique, cet homme. C'est qu'il arrive à faire peur avec... pas grand-chose, en fait. Avec nous, avec les hommes. Il arrive à créer des histoires dans lesquelles des hommes sont les monstres. Alors, moi, j'aimerais vous présenter, plutôt que de vous ennuyer avec Edgar Allan Poe, qui est difficile d'approche, je trouve, comme ça, au premier abord. C'est un auteur quand même assez daté, qui a un langage très, très recherché.
Ouais, comme Lovecraft, quoi.
Ouais, alors, son... parler du fait que ben, Edgar Allan Poe, de base, il écrit en anglais, mais il a été traduit par Baudelaire. Donc, pleurez tous. Non, moi j'aimerais vous présenter une édition un peu particulière qui a eu de certaines nouvelles d'Edgar Allan Poe. Une édition qui est parue aux éditions Soleil en 2010.
Ouh, c'est de la BD, ça.
Alors en fait, presque. En fait, c'est une édition illustrée. C'est une édition illustrée par un jeune dessinateur que j'aime énormément, qui s'appelle Benjamin Lacombe. Il a fait plein d'illustrations pour des romans qu'on connaît tous, comme Notre-Dame de Paris, les bouquins d'Alice au Pays des Merveilles, il les a illustrés. Il fait vraiment des illustrations très très sympas et il a aussi ce côté un peu sombre, un peu angoissant quand il doit faire des dessins relatifs à des histoires un peu noires. Donc autant vous dire que ça colle parfaitement avec l'univers d'Edgar Allan Poe. Et donc dans ce recueil, on a 7 nouvelles. Le recueil qui a été nommé Les Contes Macabres. Et les 7 nouvelles sont Le Chat Noir, qui est un peu le classique que tout le monde connaît d'Edgar Allan Poe, Bérénice, L'Île de la Fée, La Chute de la Maison Usher, Le Cœur Révélateur, Morella, Le Portrait Ovale et Ligeria.
À noter que dans les pays anglophones, ils n'ont pas les mêmes références pour Edgar Allan Poe. Notamment Le Corbeau est une des références anglophones qu'on a moins chez nous.
Donc c'est vraiment un univers très, très différent de ce qu'on voit habituellement. Et je trouve que pour le coup, les illustrations de Benjamin Lacombe aident vraiment à approcher le texte en fait. On avance dans le texte parce qu'on veut avancer dans l'histoire, mais parce qu'aussi on a hâte de tourner la page pour voir l'illustration suivante. Donc vraiment, ça aide beaucoup pour moi. C'est un coup de cœur énormissime parce que, bon, déjà, j'adore le dessinateur, mais aussi parce qu'il m'a permis de découvrir Edgar Allan Poe. Il m'a permis aussi de lire pour la première fois la nouvelle du Chat Noir, qui, honte à moi, je ne l'avais jamais lu. Et donc pour les gens qui devraient avoir honte comme moi, le Chat Noir nous parle de l'histoire d'un homme qui adore son chat. Je pense qu'on sait tout un petit peu à quoi ça ressemble. Hein.
Pas du tout.
Et en vieillissant, cet homme devient aigri, il devient violent, et non seulement envers sa femme, mais aussi envers son chat. Et c'est son chat qui causera sa perte. Alors, Poe raconte des histoires extrêmement sombres, avec des ambiances très très étranges. Je vous l'ai dit, on n'a pas de monstres tentaculaires. Il ne faut pas vous attendre à voir surgir des créatures absolument étranges et bizarres et dégueux. Non, les monstres sont les humains, c'est des personnages familiers qui traumatisent les personnages qui les entourent ou qui sont traumatisés par des personnages qui les entourent. Le point commun avec Lovecraft, ben, la peur et la folie latente. Bonne lecture.
Comme autre auteur qui s'est inspiré de Lovecraft, un auteur bien plus connu, on parle de Stephen King.
Il y a des Cthulhu ?
Non. Il n'y a pas de monstre à poulpe tentaculaire qui ferait plaisir à Johanna. Mais je vais vous parler d'un autre thème qui est celui de l'électricité et de la foudre. Cet ouvrage a été écrit par le maître, comme on l'appelle, pour faire un hommage à Lovecraft et à Allan Edgar Poe. Son titre, c'est Revival.
Revival.
Revival, voilà, je l'assume. Et donc on baigne pas dans les brumes de Innsmouth, mais plutôt dans les orages qui nous font plutôt penser à du Frankenstein. J'explique. En fait, il s'agit de Jamie, qui est à la base un petit garçon qui va rencontrer un prêtre qui va lui montrer plein de petites choses sur l'électricité, comme comment Jésus aurait pu faire pour marcher sur l'eau.
D'accord, moi je pensais qu'il allait lui expliquer les circuits en parallèle.
Alors en fait, il va, via la religion, expliquer plein de choses sur l'électricité. Jusqu'à ce qu'il perde sa femme et son enfant dans un accident de voiture.
Je vois le côté Frankenstein.
Voilà. Donc il va complètement virer pour devenir quelque chose qui est plutôt anti-religieux. Et ça nous fait penser à tout ce que Stephen King aime et surtout à tout ce qu'il est, entre guillemets. Ce livre, pour moi, est plutôt un hommage à lui-même. Pour la simple et bonne raison que c'est quelqu'un qui est athée, il est anti-religion. Or, ce livre est clairement sur le charlatanisme. Ça nous parle aussi de l'amour pour le rock'n'roll, vu que le héros est un guitariste enfiévré. Ça nous parle de l'addiction à la drogue, vu que le héros est complètement drogué. Ça nous parle aussi de vieillir, parce que c'est, je crois, le seul livre où Stephen King retrace la vie d'un personnage de son enfance jusqu'à sa vieillesse. Normalement, ces livres ne font pas vivre son personnage aussi longtemps.
À part peut-être La Tour Sombre.
À part peut-être La Tour Sombre, c'est vrai. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil à ses propres romans.
Donc ça t'a saoulé ?
De quoi ?
Le côté moi.
Non, parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, parce que, aimant beaucoup l'œuvre du King, je ne m'étais jamais vraiment penchée sur le personnage en tant que tel. Donc, c'est plus en essayant de me dire pourquoi est-ce qu'il a mis tout ça ensemble, que je me suis rendu compte, en regardant un petit peu sa vie, qu'en fait, ça lui correspondait beaucoup. Alors, les références à Lovecraft et à Poe, en fait, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait cette ambiance lovecraftienne ou cette ambiance de Poe qu'on peut retrouver dans d'autres de ses livres. Je pense entre autres à ça, par exemple, ou à Carrie, ou à des livres vraiment qui nous mettent cette ambiance de tension, d'horreur latente, de folie. Et là, en fait, j'ai pas retrouvé ça. C'est très lent, ça met du temps à se mettre en place. C'est un peu prévisible aussi, malgré tout. Ouais, j'ai trouvé qu'il a manqué quelque chose, en fait.
Puis donc, l'ouvrage qu'il vend comme un hommage à ces auteurs-là, finalement, n'en est pas un.
Alors, le seul qui pourrait y avoir, c'est qu'ils font mention d'un livre qui s'appelle De Veritas Mysteris, je crois, et qui est en fait, historiquement, un livre qui a existé, qui a été écrit au Moyen-Âge, qui est un livre qui a été banni, exclu, autodafé, tout ce que vous voulez, dont il existe encore quelques exemplaires et qui aurait été une base pour les Necronomicon de Lovecraft.
Ah oui, ça fait ténu quand même comme lien.
Voilà.
Ah, il y a Jo qui tire une drôle de gueule, je trouve ça très drôle.
Ouais, non, mais je sais pas, à la limite qu'il fasse un hommage à lui-même, moi je veux bien parce qu'il peut se le permettre, enfin, étant donné le monstre dans le domaine qu'il est, mais il a pas besoin d'utiliser des prétextes à deux ronds pour le faire.
Surtout qu'il aurait pu faire tellement mieux. Il aurait pu faire, mais tellement mieux. Je veux dire, en fait, depuis ces quelques années, j'ai l'impression qu'il fait moins dans l'horrifique, qu'il fait plus dans le merveilleux ou le fantastique. Et le Stephen King des débuts, celui qui me faisait vraiment peur, celui où j'avais vraiment de la tension, où je dévorais le livre pour savoir qu'est-ce qui allait se passer, ben, je suis en train de le perdre. Voilà, je suis un petit peu en deuil, en fait.
Répéter 300 millions de fois.
Alors, il serait peut-être le temps de vous parler un peu de Lovecraft en lui-même, parce qu'on a un petit peu tourné autour du pot pendant toute l'émission. Et là, il serait peut-être temps de vous indiquer les choses à ne pas rater si vous voulez vous lancer dans du Lovecraft. Alors, tout d'abord, il faut, mais absolument, c'est la base de la base, lire L'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, c'est une histoire donc, qui a été sans surprise hein, écrite par Lovecraft. En 1928, Elle a été publiée tout d'abord dans un magazine qui s'appelait Weird Tales. Et cette œuvre, elle est fondatrice pour le mythe de Cthulhu. Alors, forcément, Lovecraft, il ne fait pas les choses très simples. Hein. Tout est très en berlificoté hein, quand il écrit. Donc, ce roman se découpe en trois parties. L'horreur d'argile, le récit de l'inspecteur Legrasse et la démence qui vient de la mer. Hein, la démence qui vient de la mer, je pense que ça vous donne un peu une idée de la direction dans laquelle on va.
Mais c'est surtout qu'en fait, il est tellement fan des titres capillotractés, genre des trucs super longs et qui n'ont pas vraiment de sens.
Oui, puis alors, moi j'adore le contraste entre le récit de l'inspecteur Legrasse et la démence qui vient de la mer. C'est un peu un changement radical d'ambiance. L'appel de Cthulhu nous raconte l'histoire de Francis Wayland Thurston qui découvre des documents qui ont appartenu à son grand-oncle après le décès de ce dernier, son grand-oncle, le professeur Angel. Et en fait, au fur et à mesure de ses recherches et de la lecture de ces documents, Thurston va réaliser qu'en fait, peut-être que son grand-oncle n'est pas mort accidentellement. Son grand-oncle menait des recherches, notamment autour d'un jeune homme qui faisait encore et encore les mêmes cauchemars et autour d'un bas-relief orné d'une sculpture un peu étrange, une sculpture qui ressemblait à un homme poulpe. Alors, je vais absolument pas vous spoiler l'histoire, bien que souvent avec Lovecraft, quand on connaît un peu son univers, on voit très vite où est-ce qu'il veut en venir. On voit très vite où est-ce que ça va finir. Très souvent, dans les romans de Lovecraft, ça finit très mal pour le héros. Ou ça finit pas. On reste dans un espèce de flou énigmatique où il nous laisse la possibilité d'imaginer l'horrible suite qui pourrait advenir pour ces personnages. Ce livre est essentiel parce que voilà, c'est justement celui-là qui pose les bases du mythe de Cthulhu. Je pense que s'il faut commencer par un Lovecraft, il faut commencer par celui-là. Parce que justement, il y a un peu ces créatures étranges et tout qui peuvent un peu nous donner envie de continuer à lire. Parce que le style, vous allez lâcher. Hein, parce que c'est long, parce que c'est redondant, parce que monsieur, il écrit bien et il se la pète quand même. Enfin, faut le dire. Moi, j'ai eu énormément de peine à lire Lovecraft. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Ou, si vous n'avez pas la patience de le lire, écoutez-le.
Alors, on l'a dit tout au long de cette heure d'émission, je pense que vous commencez à le comprendre, chers auditeurs. Lovecraft est un mythe, son œuvre est un mythe. Il suffit de voir le nombre d'héritiers du panthéon Lovecraft qui existe. Mais comme vient de le dire Jo, Lovecraft, c'est pas facile d'accès. C'est une langue léchée, c'est un contenu recherché. La rythmique littéraire est propre à la rythmique littéraire du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Et il faut pas croire. Il se passe pas grand chose en fait finalement dans Lovecraft. Il y a beaucoup de considérations, beaucoup d'observations, beaucoup de déductions plus ou moins partielles. Comme le disait Jo par rapport à l'appel de Cthulhu, l'idée chez Lovecraft c'est vraiment suggérer de manière à ce que le lecteur fasse une partie du chemin. Donc si vous cherchez un roman d'action, c'est pas dans cette prise de notes de monde imaginaire que vous allez la trouver, et c'est pas non plus chez Lovecraft. Mais si vous cherchez des ambiances un peu torturées, un peu glauques, qui donnent l'impression de moiteur qui vous colle à la peau, avec un mystère qui suinte à travers les murs, Lovecraft est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, moi je vous propose de lire une de ses grandes nouvelles ou mini-romans, parce que ça fait quand même 120 pages, avant de se lancer dans le Necronomicon ou dans l'appel de Cthulhu. Dans cette catégorie, il y a notamment un ouvrage qui est sorti dans les folios 2 euros, donc en plus c'est pas cher, qui s'appelle « Celui qui chuchotait dans les ténèbres ». Toute l'affaire commença en ce qui me concerne avec les mémorables inondations sans précédent dans le Vermont qui survinrent le 3 novembre 1927. J'étais alors, comme à présent, professeur assistant de littérature à l'université de Miskatonic à Arkham, Massachusetts, et amateur passionné du folklore de Nouvelle-Angleterre. Le secret chez Lovecraft, justement, c'est ce personnage clé, celui qui va ancrer l'histoire dans l'horreur. Un personnage qui est éminemment respectable, souvent universitaire, chercheur, digne de foi, et a priori extrêmement terre-à-terre et plutôt incrédule. Mais qui a un tout petit peu d'intérêt pour le culte et le mystérieux. Donc chez lui, il y a la prise pour cette horreur qui peut centrer, le personnage a la queue en deux chaises. Oui.
Bah c'est ça. Il y a une prise Cthulhu en fait. Il y a une espèce de déclencheur dans la tête de ces personnages qui sont justement très très ancrés dans un monde scientifique. On a ça aussi dans l'appel de Cthulhu. C'est sa trame de base en fait.
Alors il faut savoir que dans celui qui chuchotait dans les ténèbres, il n'y a pas de poulpe. Il y a juste une suggestion de poulpe.
C'est bon, je peux le lire.
Oui, tu peux le lire. Ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que ce personnage, comme apparemment dans l'appel de Cthulhu, est embrigadé dans une suite d'événements incroyables qui sont toujours plus ou moins justifiables. Et tout dépend en fait du regard du lecteur à ce moment-là, plus ou moins justifiable. Jusqu'au climax final où on plonge complètement dans l'horreur et l'incroyable. Donc il y a cette volonté du crédible, de l'aventure véridique, qui est renforcée par la structure, qui est partiellement épistolaire, en tout cas dans celui qui chuchotait dans les ténèbres. Et donc ces gens ont écrit des lettres, donc du coup il y a du tangible. C'est un peu cette époque où on pensait que comme c'était dans les journaux, c'était vrai. D'ailleurs, dans ce roman-là, le personnage principal écrit dans les journaux pour s'opposer justement au bruit qui circulerait comme quoi il y aurait des monstres dans les collines du Vermont. Donc C'est un ancrage important, à savoir c'est incroyable, mais c'est censé être vrai. L'autre avantage qu'il y a dans l'épistolaire, qui est utilisé en partie dans ce mini roman, c'est que ça maintient le mystère jusqu'au bout. Je vous fais quand même un mini synopsis parce que pour l'instant je parle un peu dans le vide. Le personnage principal s'appelle Albert N. Villemars. Il est professeur à l'université. Il s'oppose dans les médias, comme je le disais, aux preuves de l'existence monstrueuse ou extraterrestre, on ne sait pas trop, des collines qu'il y a dans les collines du Vermont. Et il reçoit une lettre de Henry Eckley qui dit arrêtez, en gros, qui en substance, hein, lui dit arrêtez-vous d'écrire dans les médias, vous mettez tout le monde en danger et surtout vous et moi. Et étrangement, ce Villemars va croire Eckley, et en tout cas, il croit que Eckley n'est pas fou. Donc il se dit, s'il n'est pas fou, il se passe quand même quelque chose. C'est peut-être pas quelque chose d'irrationnel, mais il se passe quand même quelque chose. Et puis comme Eckley lui envoie en plus des preuves, des enregistrements, des photos, ce genre de choses, il commence à croire qu'il peut y avoir quelque chose. Et du coup, ce personnage se retrouve embarqué dans l'aventure de ce personnage secondaire, jusqu'à se retrouver chez lui dans sa ferme dans les montagnes. Plus on avance dans les lectures des lettres de Eckley, plus on se retrouvera confronté à du bizarre, du dangereux, du glauque, du stressant aussi, parce que le personnage secondaire est stressé. Et donc, c'est cette ambiance qui finalement va créer la surprise à la fin. Que vous dire finalement pour conclure ? Peut-être que... il faut lire celui qui chuchotait dans les ténèbres parce que c'est du pur Lovecraft, parce que ça donne une très bonne idée du style un peu chiant et puis de son univers. Et puis surtout, en fait, comme c'est pas très long, comme ça fait que 120 pages, ben c'est assez efficace. Puis au moins, ça vous permet de découvrir sans avoir à vous farcir l'appel de Cthulhu ou le Necronomicon. Donc moi, je recommande aux fans, parce que c'est pas forcément un ouvrage qu'on aura forcément lu de Lovecraft, mais surtout à ceux qui souhaiteraient le découvrir.
Je vais revenir sur Kadath, la cité des dieux des contrées du rêve. Donc Anne nous a fait une magnifique actualité dessus, comme j'en ai parlé à ce moment-là.
Sur les contrées du rêve, en fait, pas sur Kadath. Oui. Pardon ? Non, c'est bon, pardon, excuse-moi.
Donc, effectivement, Kadath fait partie des contrées du rêve. C'est même un peu le chef-lieu des contrées du rêve, vu que c'est la cité des dieux qui se cache dans ce pays, si on peut dire. C'est un peu comme le monde imaginaire de Peter Pan. Ce qui veut dire qu'on y va quand on y rêve, quand on rêve. Et même si on rêve pas, elle existe encore. Et elle existe pour tous les autres rêveurs qui arrivent à y accéder.
Et elle existe même si les gens ne rêvent pas. En fait, c'est une co-construction de l'humanité.
Voilà, c'est un petit peu ça. C'est pas très évident d'appréhender les contrées du rêve. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a surtout beaucoup d'hypothèses.
Et puis beaucoup d'écritures. Là, tu nous parles de nouveau d'un ouvrage de nouvelles qui a été écrit par d'autres auteurs, donc c'est réellement le développement de l'univers qui a été créé par Lovecraft.
Là, cette fois, c'est bien centré sur Kadath, donc cette cité des dieux, où il y a les anciens dieux qui sont les dieux de la terre, nos dieux, entre guillemets, mais il y a aussi les autres.
Trop bien, il y a Zeus et Jésus, en fait.
On ne les voit pas. En fait, pendant ces quatre quêtes, qui sont donc considérées comme des quatre quêtes oniriques, qui sont écrites par David Camus, Mélanie Fazi, Raphaël Granier de Cassagnac, qui est le fameux...
Ouh, ça c'est lui que j'aime pas, ça.
Voilà, c'est celui qu'on retrouve, et Laurent Parjois.
C'est des grosses nouvelles, là.
Ça, ouais, elles sont... En fait, à l'intérieur du livre, il y a encore plein d'annexes qui récapitule les différents personnages, les différents lieux qui ont été visités dans Cadas, ainsi que le bestiaire et les différentes autres petites choses qui seraient intéressantes de voir.
Ah, donc c'est un bon guide si tu veux découvrir un peu,
c'est un petit peu ça.
L'univers de Lovecraft. Okay.
Et justement, en fait, ce livre est sorti aussi en novembre. Donc là, celui dont je vous parle est sorti en mai. Mais il y a une autre version qui est sortie en novembre qui s'appelle Cadas, guide de la cité inconnue, qui est avec les mêmes nouvelles, mais qui sont en plus illustrées par Nicolas Fractus. Donc, ces quatre nouvelles ont en fait un fil rouge qui est tenu par un mystérieux narrateur qui s'appelle Linomé, qui est en fait Raphaël, que tu aimes bien, de Cassagnac.
Mm-hmm.
Ce qui fait que des fois, ce n'est pas évident de s'y retrouver. Cependant, les nouvelles sont... assez sympathique. Autant on parle d'une nonne qui devient complètement tarée et qui part dans les contrées du rêve, parce qu'on peut y être physiquement aussi. On peut y rêver et si on passe physiquement dans ces contrées, en général, on devient fou. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à cette femme, Aliénor, qui est en plus l'éternelle enceinte. Et on va vous expliquer tout au long de ces nouvelles. Ah, c'est vraiment, 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 vraiment pas de bol. Et les temps de gestation sont très, 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 très longs.
Le pire, c'est que ça recommence,
c'est ça.
En fait.
Et je vais pas spoiler le pourquoi du comment, parce que c'est vraiment donné à la toute fin. Et c'est assez poétique quand même. J'ai vraiment trouvé ça vraiment chouette. Sauf que pour moi, malgré tout, Cadas, c'est la cité du rêve, mais on peut aussi y aller par la drogue. Donc, il y a plusieurs choses, on va dire, mais c'est aussi pour un univers qui a été créé par Lovecraft, malgré ses quatre nouvelles. C'est de l'horreur, certes, mais très teinté de merveilleux. Il n'y a plus vraiment cette atmosphère de malaise qu'on pourrait retrouver dans d'autres nouvelles, peut-être celles que tu as lues, Anne.
Certaines, oui, justement.
On y parle aussi de Randolph Carter, qui apparaît aussi dans les contrées du rêve, mais en tant qu'avatar de Lovecraft. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord avec Anne, parce que nos deux livres disent pas la même chose.
Ça veut dire que Mnemos n'est pas d'accord avec lui-même. Donc l'éditeur n'est pas sûr. Une fois, il dit « c'est l'avatar », ou l'ego, comment est-ce qu'on dit, l'alter ego de Lovecraft. Et puis, dans l'ouvrage que j'ai lu, moi, justement, il dit qu'en fait, pas du tout, parce qu'on a retrouvé un nouvel ouvrage. Il y a peut-être un côté mythologique autour de Randolph Carter.
Il y a aussi un an qui sépare l'édition des deux livres, un petit peu moins d'un an. Donc peut-être qu'ils ont voulu faire ces livres-là pour l'anniversaire des 80 ans de la mort de Lovecraft, et qu'en se penchant un peu plus sur ce personnage de Randolph Carter, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être ambiguïté et que c'était pas aussi simple que ce qu'on pensait. Peut-être. Donc c'est un livre que je recommande, c'est un livre qui nous fait quand même voyager, il n'y a pas énormément d'action, malgré tout ça reste dans l'univers du Lovecraft, mais comme le dit la seconde édition de ce livre, c'est vraiment un guide de Cadas via ses quatre nouvelles, et ça peut aussi vous faire visiter l'univers des contrées du rêve, qui moi m'ont beaucoup plu. De plus, il semblerait qu'on sache maintenant d'où vient le Necronomicon, ou en tout cas... encore une des possibilités du Necronomicon, il semblerait qu'il y ait un de ses rêveurs, qui est Abd al-Azrad. Voilà, là, Johanna, elle est d'accord.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, t'as donné le bon nom, bravo.
Alors là, peut-être que tu ne seras pas d'accord. Qui a été dans les contrées du rêve et qui s'est fait doter d'une sorte d'homme parchemin vivant qui s'appelle un Kitab. Et où en fait, Abd al-Azrad doit, c'est sa mission dans les contrées du rêve, noter tout ce qu'il découvre. Et donc il va parcourir les contrées du rêve et noter sur le Kitab. Et le Kitab qui est donc un recueil de plein de parchemins qui deviendra ensuite le Necronomicon.
Alors ça m'a l'air pas trop mal pour le Necronomicon, pas trop mal du tout. Faudra le lire, le Necronomicon, pour savoir. Moi, je vous spoilerai pas. Parce que bon, le Necronomicon, c'est toute une histoire. Alors, si vous avez déjà trouvé compliqué tout ce qu'on vous a raconté jusqu'à maintenant, accrochez-vous parce que le pire est à venir. Le Necronomicon est un ouvrage fictif. C'est un ouvrage qui, parle du mythe de Cthulhu, mais surtout qui a été inventé par Lovecraft. Lovecraft le mentionne dans plusieurs de ses romans. Il l'évoque pour la première fois dans La Cité sans nom, où justement il mentionne son auteur fictionnel, Abdul al-Azred, selon les prononciations. Je crois que les graphies ne sont pas toutes d'accord, vu l'origine du nom, on peut douter. Il est mentionné à plusieurs reprises dans les romans de Lovecraft. Mais surtout, en fait, Lovecraft mentionne le Necronomicon par le biais des sources qu'il aurait utilisées, ou plutôt que ses personnages auraient utilisées. Tout ça pour faire du Necronomicon un ouvrage crédible. Il le présente comme un livre de culte, de magie, et qui parle de l'histoire du temps des grands anciens. Donc justement, on vous en a parlé, hein, de ces grands anciens. Alors, là où on commence gentiment à rigoler et à se poser des questions, c'est que, en fait, Lovecraft n'a jamais écrit de Necronomicon. Jamais. Il ne fait que le mentionner. Et il l'a tellement bien documenté dans ses textes que certains auteurs réels, comme Robert Howard, mentionnent le Necronomicon dans leur propre roman. Mais mieux que ça, ils commencent à croire en son existence. Plein d'auteurs ont pendant un temps cru que le Necronomicon existait réellement. Alors le vrai Necronomicon n'existe absolument pas. Par contre, suite à sa popularité, il y a eu des parutions de vrais faux Necronomicon, comme le Necronomicon Simon.
Ah, parce qu'après ils sont comme dans la littérature de genre médiévale ou la littérature classique, genre c'est mentionné avec le nom de l'auteur.
Ouais, en fait il y a eu plein d'auteurs qui se sont essayés à écrire des Necronomicon, et donc il y a eu plein de versions du Necronomicon selon comment les auteurs l'ont compris, selon quelles sources ils ont utilisées, etc. C'est toujours lié à Lovecraft, c'est toujours dans un même esprit, mais la version la plus importante qui existe et celle qui est toujours rééditée, c'est le Necronomicon Simon. Pas de Simon, c'est Necronomicon Simon. Il est paru en 1977 et il est très, très axé sur l'occulte. L'histoire de l'ouvrage est hyper complexe parce que ce Simon, il a existé. Son histoire, on a du mal à l'établir parce que on a du mal à démêler le vrai du faux, en fait.
C'est un autre Randolph Carter. Au secours !
Voilà, c'est pour ça que j'ai doucement rigolé quand j'ai vu votre petit débat. Hein. Alors, ce qu'on sait plus ou moins, c'est que Simon devait être un évêque orthodoxe, que Simon, c'est un pseudonyme qu'il a utilisé pour éviter les foudres du clergé. En fait, on dit qu'il aurait apporté le Necronomicon aux USA pendant les années 70. Moi, je pense qu'il l'a écrit. Hein, puis que...
Oui, mais oui, ça a un côté pseudo-religieux, genre... ça, c'est le clou du Christ. Ouais, ça, c'est le vrai Necronomicon.
Ah, mais c'est pas approuvé, si ça se trouve.
Non, mais c'est hyper intéressant parce que finalement, le mythe s'arrête plus au livre lui-même, mais le mythe se met à toucher l'histoire de celui qui l'a écrit. On n'arrive plus à... On a un bouquin devant les yeux, on se dit, bon, oui, c'est un bouquin qui est sorti de romans de Lovecraft, donc forcément, c'est une espèce de reproduction d'un grimoire. Ok, on arrive à se dire que c'est bon, c'est que de l'imaginaire. Mais le truc, c'est que quand on touche à l'auteur qui est tangible, réel, qui existe, là, on est nouveau dans du flou et dans du brouillard. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça apporte du flou et du brouillard à notre propre existence. C'est...
Ouh, ça va trop loin. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est comme si J.K. Rowling n'avait pas écrit les contes de Biddle le Bard.
Non, mais c'est dans le sens où tout d'un coup, y a quelqu'un qui existe comme nous et puis son existence, on n'a pas moyen de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Je trouve ça hyper intéressant.
Si ça se trouve, c'est vrai, et c'est vrai, donc c'est teinté de surnaturel, et peut-être qu'en fait, les grands anciens sont parmi nous,
ouais,
et peut-être
qu'en fait... tu t'attends à avoir déballé un Cthulhu des bouches d'égout. Arrête, ça n'arrivera pas. Bref, l'édition la plus récente qui a été faite du Necronomicon, c'est Brajlon, hein, forcément. sorti en 2012. Et en fait, cette édition regroupe les 4 livres de Simon. Donc, les 4 livres portent les noms suivants. Donc, les non-morts, où Simon nous explique le contexte d'écriture du Necronomicon 30 ans après l'apparition du Necronomicon.
On a encore un symptôme un peu religieux. Hein. Le côté apôtre qui écrit oui. Le Nouveau Testament.
Oui. Ensuite, on a le Necronomicon, qui est le grimoire avec des incantations, de la mythologie très sumérienne, babylonienne, où on nous propose des sorts. Notamment, il y a des sorts pour augmenter les capacités sexuelles. Ça me fait mourir de rire.
Faut lire celui-là.
Voilà. Le troisième livre, c'est le livre des sorts. Donc, en fait, c'est un peu le livre des sorts pour les nuls. C'est des sorts hyper simples pour invoquer Marduk, qui est une figure majeure du panthéon sumérien et babylonien.
Et après, vous pouvez faire comme les princesses, vous pourrez appeler des pigeons pour faire le ménage chez vous.
Arrête, tu détruis tout le côté
du
truc. Le quatrième livre, donc, c'est les portes du Necronomicon, où là, c'est un peu histoire des religions. On étudie les relations entre les mythes et les religions dans le monde. C'est assez sympa. En fait, pas mal de gens ont trouvé ça hyper rébarbatif parce qu'ils s'attendaient certainement à avoir un espèce de vrai grimoire sous les yeux, alors que il y a un peu des études, il y a un peu de romans, il y a un peu d'histoire. Enfin, c'est un vrai pot pourri. Après, l'édition de Bragelonne est magnifique. Il y a des illustrations qui pètent. Enfin, c'est joli, ça vaut le coup si vous êtes fan de l'univers d'investir des sous dedans. C'est hyper intriguant et on a presque envie d'essayer de se mettre un peu dans l'ambiance pour voir si on arrive à invoquer quelque chose. Moi, je le ferai pas. J'ai pas envie d'avoir un Cthulhu dans ma baignoire.
C'est justement ça que je voulais te demander. C'est que malgré que tu dis que ce livre n'existe pas, qu'il est complètement fictif, est-ce que tu prendrais le risque d'essayer quand même une incantation?
Non.
Même celle sur les performances sexuelles?
Non.
Alors, on vous a parlé de Lovecraft en long, en large et en travers. Il y a une chose dont qu'on a juste évoquée pendant cette émission, c'est le fait qu'il était possible d'écouter du Lovecraft plutôt que d'en lire. On vous a tiré un petit extrait d'un site internet qui s'appelle littératureaudio.com. Pour moi, ce site internet est un bon moyen de découvrir des auteurs libres de droit, parce qu'ils sont morts il y a plus de 70 ans, que vous n'achèteriez jamais, genre Lautréamont ou Lovecraft, et que vous pourriez, du coup, écouter un podcast sur votre smartphone dans le bus, vous gagnez du temps et un peu de culture.
Malheur à celui pour qui les souvenirs de l'enfance n'évoquent que peur et tristesse. Malheur à celui qui ne peut se souvenir que d'heures solitaires, passées dans de vastes et lugubres pièces aux rideaux bruns, parmi d'interminables rangées de livres anciens, et qui ne regardait qu'avec crainte les bouquets d'arbres grotesques, gigantesques, envahis par la vigne, qui jetaient vers le ciel leurs branches tordues, ondulant silencieusement dans l'air du soir. C'est là le lot que m'ont donné les dieux. Moi, l'ahuri, le dépité, le stérile, le brisé. Et pourtant, je suis étrangement satisfait, et je m'accroche désespérément à ces souvenirs, chaque fois que mon esprit menace momentanément de s'aventurer jusqu'à l'autre.
Mondes imaginaires s'éloignent des contrées du rêve, quittent l'univers de Lovecraft, pour se pencher sur des univers à caractéristiques particulières. On se retrouve le mois prochain, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de Mondes Imaginaires. Et d'ici là, on vous souhaite d'excellentes lectures.
Ciao, ciao!
Bye!